Chapitre 19e, l'écolière. Lorsqu'il sortit de chez Natacha, il était de bonne heure. Il fit à pied le trajet de l'Arbat à l'hôtel. La conversation qu'il avait eue l'avait affermi dans sa résolution de hâter la rupture avec Ariane. À formuler à haute voix les pensées qui ne cessaient de hanter son esprit, il avait compris qu'il fallait en finir au plus vite. Il remâchait ses griefs contre Ariane. Comment continuer à vivre avec une fille méchante, cynique, qui prenait son plaisir à le torturer, à lui faire sentir son néant, et pour qu'il n'était au demeurant qu'un numéro dans une série déjà longue? Et dans cette besogne haïssable, artiste inouï par le raffinement de sa cruauté, par l'art avec lequel elle décochait ses traits venimeux. Tout en marchant, il se montait peu à peu, en arrivait à détester Ariane dont il se composait le plus noir portrait. L'appartement était éclairé. Dans les trois premières pièces, personne. Il ne trouva Ariane que dans la salle de bain et s'arrêta stupéfait, tant l'aspect qu'elle présentait différait de l'image qu'il s'en était formée en chemin. Elle avait revêtu un sarrau large d'écolière, descendant à mi-jambes. Ses cheveux dénoués descendaient jusque sur les reins. Elle semblait avoir les 14 ans d'une fillette grandie et précoce, aux yeux vifs, à la bouche déjà formée pour les baisers. Elle se jeta à son cou et y resta pendue comme un enfant. « Que tu es en retard, » dit-elle. « Viens voir, j'ai développé les photographies que nous avons faites l'autre semaine. Regarde, tu es beau comme le jour, tu es le grand prince, l'unique. Moi, horrible comme à l'ordinaire, chiffonné, à ne pas y toucher. Seul le cliché qui me représente étendu sur le canapé est à peu près réussi. » Elle lui tendit un cliché qui la montrait dans la pose de la Maya de Goya, vêtue de pyjama léger de soie. La veste était ouverte sur la poitrine nue et un sein saillait, rond, parfaitement modelé. Constantin s'appuya contre la porte, tant le contraste était brusque entre l'Ariane qui avait fait la route de l'Arbat à l'hôtel et la gamine expansive qui lui sautait au cou. Il regarda le cliché, puis la jeune fille, et avec gaieté, lui dit « Je t'aime en écolière plus qu'en photographie. Tu as l'air, il est vrai, d'un mauvais sujet, mais on a l'idée qu'on peut t'appliquer encore des punitions appropriées. » « Essaye, essaye un peu pour voir, » cria-t-elle. « Personne n'a jamais osé me toucher. » Elle se sauva jusqu'au salon, il la suivit. « Tu sais, » fit-elle, « je n'ai pas dîné. Je meurs de faim. Commande à souper. Je te raconterai des histoires du temps où j'étais écolière. » Un peu plus tard, comme ils achevaient de manger, elle lui dit des souvenirs de sa vie au gymnase. « Nous avions un prêtre qui nous enseignait l'histoire sainte. C'était un homme charmant, entre 40 et 50 ans. Avec une grande barbe poivre et sel, et un œil bleu, gai, si gai. Tous nous l'aimions, et il nous aimait aussi. Je m'amusais à lui poser des questions difficiles. J'avais 14 ans alors, et je fis un grand scandale dans la classe un jour où il me racontait l'histoire d'Adam et d'Ève. Je lui dis, « Batiushka, expliquez-moi, je vous prie, quelque chose que je ne comprends pas. Au commencement du monde, il n'y avait qu'Adam et Ève, n'est-ce pas, et personne d'autre. Mais non, mon enfant. » Et leurs fils furent Caïn et Abel, je sais. Mais alors, à eux quatre, comment eurent-ils des enfants? Est-ce qu'à cette époque, les fils pouvaient se marier avec leur mère, comme sous les pharaons les filles avec leur père? Voilà toute la classe qui se met à rire, et le Batiushka, nous voyons ainsi, se laissa gagner par la contagion, et au lieu de me répondre, rit avec nous. Il n'y avait que la surveillante qui ne riait pas. Elle alla chercher madame la directrice. J'avais un air si innocent, qu'on ne put me punir. Mais dorénavant, on nous interdit de poser des questions à la leçon d'histoire sainte. Les mystères, dit la directrice d'un air grave, sont les mystères et ne peuvent être expliqués. Ce bon Batiushka ne m'en voulut pas. Nous devînmes de grands amis. Il m'attendait souvent dans un corridor, me faisait une petite caresse sur la joue, ou me prenait par le bras. Moi, j'étais coquette avec lui. Je lui coulais des yeux en dessous. Un jour que nous avions un bal au gymnase, je le rencontrai dans un couloir. « Eh bien, Kuznetsova, me dit-il, vous allez danser ce soir ?»« Venez, Batiushka, répondis-je, et j'ouvrirai le bal avec vous. Je ne peux pas, mon enfant, » soupira-t-il, « nous n'allons pas au bal. »« Alors vous ne savez pas danser? Voulez-vous que je vous donne une leçon ?» Et je lui tendis la main. « J'ai su, » dit-il, « j'ai su, mais j'ai oublié. » Il avait pris ma main et passait son bras autour de ma taille. Et puis cette maudite robe, bon, elle n'est pas plus longue que la mienne. Et je commençais à fredonner Troïka. Et voilà Batiushka qui se met à tourner légèrement et moi dans ses bras. Comme il pliait sur les genoux, sa robe balayait le parquet et soulevait la poussière. On entendit le bruit d'une porte qui s'ouvrait. Il s'arrêta brusquement. « Quelle folie !» dit-il. Et il s'enfuit tout riant. « Ah, le charmant homme, il m'aimait vraiment, celui-là » Les ennuis sont venus. Il avait une fille d'un an plus âgée que moi. C'était une grande dégingandée dont la figure ressemblait à celle de la discorde. Mais elle était admirablement faite et se montrait à peine habillée. Elle avait des amants comme un homme a des maîtresses, et dans les soupers, elle buvait trop. Elle s'amouracha, imagine-toi, d'un vieil acteur, et quand il quitta la ville, elle partit avec lui. Tout le monde en parla, et la position de Batiushka devint difficile. Mais la directrice du gymnase, Madame Zamneskaya, le défendit et le garda. Je crois qu'il s'est mis à boire depuis ce malheur. Ils passèrent une soirée charmante. Ariane animait devant lui les scènes de la vie au gymnase. Il connaissait déjà la plupart des protagonistes autour desquels bruissait la foule des comparses. Il s'étonnait de l'art prodigieux avec lequel Ariane suscitait devant lui les compagnes de sa jeunesse. C'était tout un monde juvénile qui s'agitait autour de lui sous la baguette de cette fée qui emplissait la chambre, dont les ombres flotteraient encore quelques instants après que la parole de la magicienne se serait tue, puis s'évanouirait et rentrerait dans la nuit, d'où elle les avait évoquées. Constantin disait à Ariane, « La ville que je connais le mieux en Russie est celle où je n'ai jamais été et où tu as vécu ton adolescence. »